marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La géographie, c'est l'histoire dans l'espace et l'histoire, c'est la géographie dans le temps.
Nigeria, l'état du Borno et Boko Haram.
En 2015, elle suit son mari parti rejoindre l'organisation terroriste. C'était un jour de marché. L'attentat a fait 7 morts.
Ils nous ont mis une ceinture d'explosifs. On n'a pas eu le choix, ils nous ont forcés.
Halima est une miraculée. Elle a survécu à l'attentat. Mais elle y a laissé ses deux jambes.
Regardez ce qu'ils ont fait de moi. Je ne peux même plus me déplacer. Mais bon, c'est la vie.
Il y a une décennie encore, Boko Haram pouvait passer pour un groupe rebelle comme tant d'autres. En 2009, il gagne en relief grâce à l'assassinat très spectaculaire de son leader par les forces spéciales nigérianes. Et en 2014, l'enlèvement qu'il organise d'un groupe de lycéennes le fait connaître du monde entier. Son discours est dorénavant extrême. Les filles occidentalisées, nous les vendrons. Les églises, ce n'est pas suffisant de les brûler. Il faut tuer les mécréants. Il est impossible de prédire le moment de la fin de Boko Haram. En revanche, il est possible de soutenir qu'il est le symptôme de tensions qui, traversant la région depuis longtemps, ne sont pas prêts de s'éteindre. La région, autour de l'antique carrefour du lac Tchad, s'y était établie pour 1000 ans. Un vieil empire, le Karnem Borno, dont les dirigeants se sont convertis à l'islam dès le 11e siècle. La dernière de ces dynasties a accompagné les colonisateurs. Les colonisateurs, les Allemands ayant été rayés de la carte en 1919, les Français et les Britanniques se sont disputés l'espace, les uns et les autres introduisant les missionnaires chrétiens avec plus ou moins d'enthousiasme. C'est ainsi que la zone du lac Tchad est maintenant traversée par 3 frontières séparant 4 États, Nigeria, Cameroun, Tchad, Niger. Elle est éloignée de Niamey comme de N'Djamena et d'Abuja, la capitale administrative nigériane. Au nord-est du Nigeria, dans un coin de la carte du pays maintenant, l'état du Borno. Il est un parmi 37 et que représente-t-il au niveau fédéral? Qui peut chiffrer? Au Nigeria, tout est corrompu à commencer par les statistiques. Combien d'habitants au total? 150, 175, 200 millions? Combien de musulmans? En tout cas, l'affirmation selon laquelle le Nord serait entièrement musulman est erronée. On dit souvent que le Nigeria est un grand pays qui va émerger, mais vu du Borno, qui a connu un empire, il ressemble surtout à une puissance continentale imaginaire qui ne sait que faire avec ce danger réel de Boko Haram.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Vincent Iribarren, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes bien entouré parce que Franck Olivard qui a préparé cette émission est basque, Valérie Aestaray qui la réalise est basque.
Très bien.
Et Philippe Duclos qui en est le technicien est basque. Au fond, quand vous avez commencé vos études d'histoire et que vous travailliez sur les guerres de religion à Bayonne, vous prépariez le terrain, non?
J'étais prêt à retrouver votre basque partout.
Et maintenant, vous vivez une grande partie du temps en Angleterre, vous enseignez à King's College et vous êtes allé au Nigeria dans l'état de Borno, je crois, pour la première fois en 2010. Un peu inconscient du danger, non? Parce que vous aviez surtout travaillé dans les archives jusque-là.
Un petit peu, effectivement, c'était une thèse d'histoire. L'idée, c'est de comprendre l'histoire des frontières de la région. Donc je me promenais avec mon sac à dos vers la frontière et je rencontrais des gens, je parlais, je m'arrêtais, je faisais des entretiens. Et petit à petit, je me rendais compte que la situation était de plus en plus dangereuse. Et je me souviens être rentré en Europe quelques mois plus tard en me disant que cette région sentait la guerre. Et effectivement, l'année 2011 était terrible pour la région du Borno, qui a connu un nombre de massacres par Boko Haram.
Mais on va parler de Boko Haram tout à l'heure, mais restons-en au temps plus ancien. Votre tête inspirait la curiosité quand même.
Oui, beaucoup.
L'intérêt.
Beaucoup, évidemment. On se demande ce que je viens faire là.
En gros. Mais votre tête. Tête.
J'avais ma tête.
J'avais
les cheveux longs. Il y a peu d'hommes avec des cheveux longs dans la région. Ce qui fait que beaucoup de gens posaient des questions. Beaucoup de femmes riaient quand elles me voyaient, me demandaient comment j'avais des cheveux. Et une histoire que je raconte, c'est qu'une femme a voulu m'acheter mes cheveux pour en faire une perruque, pour faire des suppléments capillaires que beaucoup de femmes nigérianes portent pour sortir.
Ouais, mais il faut dire parce que vous avez le privilège d'être publié chez Plomb dans la collection Terre humaine, un manguier au Nigeria, histoire au pluriel de Borno, et dans Terre humaine on dit je.
Oui, tout à fait. Je suis content de parler de moi en tant que voyageur, parce que c'est une rencontre avec les gens sur place. Ce livre, c'est, en gros, c'est moi qui suis là, qui suis dans la région, qui parle aux gens. Donc, je prétends pas tout connaître sur toute la région, évidemment, parce que c'est une région qui est très difficile à connaître en son intégralité. Il faudrait rester là très longtemps, ce qui est impossible avec le conflit. Mais à l'inverse, c'est aussi un regard subjectif. Et finalement, ça correspond très bien à ma façon de voir l'histoire. Personne ne peut prétendre avoir une telle objectivité. Et c'est parfait pour la collection Terre humaine, dans laquelle j'ai la chance de publier.
Le manguier, ou aussi bien une tente, l'avant de la tente, le parvis de la tente, ou aussi bien une place. Chaque fois que vous parlez, vous avez besoin d'interprètes en plus.
Oui.
Un attroupement se provoque autour de vous.
Exactement. On se rend compte que je ne comprends pas tout à fait ce qui se passe autour de moi, évidemment, à chaque fois. Et ça fait toujours partie de la curiosité des gens qui vont dans les petits endroits, les petits villages. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça attire des gens. Tout le monde est surpris, mais content aussi. La curiosité chez les gens qui me voient arriver est partagée. Nous sommes tous curieux, en fait, de connaître notre histoire commune, ce qu'on va faire, ce que je vais essayer de raconter à partir de nos rencontres. Donc le but aussi est de publier, de parler, et tous les gens m'ont demandé de raconter leur histoire, donc dans ce livre.
Petit village, oui, d'accord, mais on va commencer par les grands espaces, parce que je vous propose de rejoindre le centre historique de la région, dont le Borno actuel n'est qu'un flanc, je veux dire, le lac Tchad.
Les grands fleuves peuvent ici s'étaler à la saison des hautes eaux. C'est la région des lacs. La vie du pays se borne à la pêche en pirogue, sur ces vastes étendues limitées par un horizon triste, dans le calme total des infinis lointains.
Alors ça, c'est une époque ancienne, l'époque du Grand Lac, parce que éclaircissez d'abord, avant qu'on ne parle histoire, ce mystère là du lac Tchad, un lac endoréique. Et qui, selon les moments, est grand lac, moyen lac ou petit lac?
Alors, il y a 8000 ans, vous aviez un très grand lac qui s'appelait Méga Tchad. On le sait parce qu'on a retrouvé les traces des rives de ce Méga Tchad dans le sol de la région. On a même retrouvé un canoë qui s'appelle le canoë de Doufana, qui était retrouvé, qui prouve qu'il y a 8000 ans, des gens naviguer sur ce lac qui n'est jamais très profond. Et ce lac connaît des cycles qui sont à la fois longs mais aussi courts. Et en ce moment, nous sommes dans un cycle court du lac. Ce qui veut dire qu'il y a deux cuvettes, la cuvette nord et la cuvette sud, et que le reste, ce ne sont que des marécages quelque part. Donc c'est un lac qui est assez intéressant. On l'appelle lac. On peut avoir une vision catastrophiste de la chose qui fait que le lac diminue, va disparaître à cause de l'exploitation humaine et du changement climatique. Il diminue, c'est vrai, en ce moment, mais il va aussi augmenter bientôt. Donc ce n'est pas la mer d'Aral, c'est un lac qui va redevenir plus grand et qui va connaître plusieurs cycles différents.
Alors, autour de ce lac, qui est un grand carrefour des routes transsahariennes, transsahéliennes, qui est propice à la pêche et les alentours à l'agriculture, s'établit un empire qui va être millénaire.
Dès le 9e siècle, on a des gens qui sont dans la région actuelle du Tchad, dans la région du Kanem. Il y a toujours une préfecture qui s'appelle Kanem dans le pays du Tchad actuel. Dans la région du Kanem, il y a des gens qui sont sans doute semi-nomades, on n'est pas trop sûr, qui s'installent là. Ils s'appellent les Dugawa, qui s'installent, qui créent une sorte d'état sur place dès le 9e siècle. Petit à petit, ils vont conquérir les zones qui sont à l'est donc du lac Tchad, donc plutôt vers le Tchad actuel. Et à cette dynastie va succéder la dynastie des Sefawa, qui va donc, elle, régner sur tout le bassin du lac Tchad. Ils vont passer vers le 13e, 14e siècle pour des raisons climatiques, vers du côté du Borno actuel. Le Borno, c'est
plus à l'ouest.
Exactement. L'autre côté du lac Tchad, on change de rive, on est aujourd'hui au Nigeria. C'est la région de Nigeria, c'est la région qu'on connaît pour Boko Haram, mais en fait, à l'époque, c'était une région qui était riche agricolement. On pouvait créer, donc, on pouvait. C'était la base d'un État qui survivait, qui dominait ses voisins pendant toute la région. Ils ont créé un empire qui commerçait avec le nord du Sahara, un empire dont les dirigeants, comme on l'avait rappelé, s'étaient convertis à l'islam dès l'11e siècle, donc un empire en connexion avec tout le monde musulman. On parle de pèlerinage à la Mecque pour ses dirigeants, on parle de correspondance avec le sultan à Istanbul, ou même avec le Maroc, on parle donc de connexion avec tout le reste, en dehors de l'Afrique évidemment. L'Afrique n'a jamais été déconnectée du reste du monde, et le Kanem Borno est un de ses premiers exemples de connexion relations entre l'Afrique subsaharienne et le reste du monde musulman.
La dernière dynastie qui a régné au 19e, qui a pu être secouée d'ailleurs en 1808-1810 par un djihad, ensuite a accompagné les colonisateurs. Alors les colonisateurs, les Allemands s'étant retirés de force en 1919, sont les Britanniques. Et les Français, quand ils se retirent, les frontières doivent être stabilisées dans cette région incertaine, l'hydrographie capricieuse qu'est le lac Tchad. Bornage en 1991 entre Tchad, Cameroun, Niger, Nigeria.
C'est une zone riche. Et donc, je pense que c'était une des raisons pour lesquelles il était important pour chaque pays de fixer les limites et donc de fixer des frontières et donc de les borner. Donc, alors ceci s'est fait dans le cadre d'une commission qui s'appelle la commission du bassin du lac Tchad, qui est un organisme donc international puisqu'il regroupe les quatre nations riveraines du lac et qui se sont mis d'accord sur le bornage et ensuite sur la définition rigoureuse de la frontière. Alors, je pense que les accords entre les pays ont été extrêmement difficiles à se faire. Et il y avait souvent des réunions qui avaient lieu en cours de mission et qui nous ont retardés parce que les décisions n'arrivaient pas.
Sur le papier, le problème posé était simple. Bornage des frontières dans le lac Tchad entre les quatre pays riverains. 7 points principaux, 66 points intermédiaires, soit 1 tous les 5 kilomètres. Sur le terrain, ce fut une autre histoire.
J'ai eu quelques contacts avec notamment des Tchadiens qui étaient manifestement implantés, un village tchadien était implanté au moins 5 km à l'intérieur du Nigeria. Quand je suis passé, je leur ai dit on va installer la frontière et ils m'ont demandé où elle était. Et je dis mais vous êtes traité dans l'intérieur du Nigeria. Ils m'ont dit jamais nous ne quitterons ce village. Et on savait aussi que les Nigérians étaient rentrés très nettement à l'intérieur du Tchad un peu plus au sud.
Nuit magnétique, France Culture 91. On va aller plus avant dans le Borno, au Nigeria, avec vous, Vincent Iribarren. Mais juste un mot de la frontière avec le Cameroun que vous avez connu à une époque encore relativement pacifique. 14 juillet 2010, alors vous passez la frontière.
Je suis allé passer la frontière et avoir donc rencontré l'agent des douanes camerounais qui lui lisait Rousseau. Il y avait un livre de Rousseau dans les mains et je regarde, mais comment ça se fait que vous travaillez sur ceci? Il me dit qu'il passait un concours. Donc, vous voyez, quelqu'un qui lit Rousseau, qui passe un concours, ça me rappelle la France. J'ai grandi en France et donc évidemment, c'est assez étonnant de retrouver ceci. On est vraiment dans un village jumeau qui s'appelle Bankiamchide, à la frontière entre Cameroun et le Nigeria, et quelqu'un me lit Rousseau et me souhaite bonne fête.
Parce que c'était le 14 juillet.
Exactement.
Mais on va aller maintenant dans la capitale du Borno, Maïdegouri, je prononce très mal. Hein.
Maïdegouri.
Ouais. Et quelles langues d'ailleurs sont pratiquées essentiellement au Borno?
C'est la langue Kanuri. C'est une langue Kanuri. C'est la langue qui est la principale des gens sur place. Mais depuis, il y a beaucoup de gens qui sont venus depuis Haoussa. Donc il y a beaucoup de Haoussaphones dans la région. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle Kanuri, Haoussa, aussi beaucoup d'anglais. La région était colonisée par les anglais. Et aussi beaucoup d'autres langues qui sont dans toute la région, en particulier vers le Cameroun, avec la frontière du Cameroun, vers les monts Mandara en particulier. Il y a beaucoup de langues.
Des étudiants du Cameroun, quelques-uns, des étudiants du Tchad, quelques-uns, fréquentent l'université qui est un peu votre base, UNIMED. Mais je voudrais que vous nous parliez des palais de la capitale. 1, 2, 3 palais, ça en dit beaucoup sur l'état du Nigeria.
3 palais. Le premier, celui du Chéou, le Chéou du Borno. Le Chéou, c'est le mot pour cheikh. C'est l'homme qui est l'homme ultra musulman qui détient l'autorité religieuse dans toute la région.
Et qui descend donc des derniers membres de la dynastie de l'Empire.
Sa dynastie des Kanemi. Il se descendra. Il a un pouvoir en théorie qui n'est pas constitutionnel au Nigeria, mais en fait, il détient une autorité morale sur tous les gens de la région. Il peut par exemple appeler le début du Ramadan dans le Borno. Il y a l'autre palais qui est celui du gouverneur. Cette fois-ci, le gouverneur qui est le représentant de l'État dans la région, le Nigeria étant une fédération, qui a créé sa constitution sur la base de celle des États-Unis. Donc vous voyez, on a un peu le même système avec des gouverneurs qui ont beaucoup de pouvoir et qui, lui, donc, il représente le Nigeria. On peut parler, par exemple, de comment il peut redistribuer l'argent, construire. Il se présente comme un mécène qui distribue l'argent à ses clients. Donc on parle bien du clientélisme, mais aussi, donc, quelquefois d'allégations de corruption dans tout le pays.
Quelquefois d'allégations, j'aime bien comment vous parlez. Il y a une image assez forte dans votre livre. Le gouverneur qui transforme la capitale en chantier pour montrer que tout va bien, dans le Borno, il a installé une
pyramide de sacs de riz pour signifier la surabondance qui va se manifester nécessairement pendant son mandat. Et en fait, de pyramide de sacs de riz,
une mascarade. On enlève les premières couches de sacs de riz, il n'y a rien dessous, des gravats, des graviers, on ne sait pas. Et c'est presque devenu une plaisanterie dans toute la région. Donc à la fois symbole de la corruption de toute la région, mais aussi symbole de...
Non, quelquefois des allégations seulement. Et le palais du troisième grand personnage, un milliardaire, a été conçu sans aucune corruption. Aucune allégation de corruption ne peut s'appliquer à l'endroit.
Mohamed Ndimi est un milliardaire connu dans la région qui, lui, a des liens familiaux avec toutes les grandes familles du Borno, mais aussi avec un ancien président du Nigeria, mais aussi le président actuel. Donc on tisse des liens matrimoniaux, on tisse des liens économiques, on tisse des liens politiques. Vous voyez, tout s'imbrique et on parle d'allégations de corruption, mais en fait, on se retrouve avec un système très pyramidal où tout le monde est connecté et beaucoup d'argent circule.
Alors, dans vos histoires du Borno, terre humaine, plomb, il y a beaucoup de portraits, le portrait du Chéou, pas le portrait du milliardaire. On va un petit peu à l'écart dans un fort qui s'appelle Dikma. À un moment, l'empire de Kanem Borno a été secoué par l'équipée d'un monsieur qui s'appelait Rabat, on était autour de 1900, et qui avait conçu, lui, un empire nomade, et il avait construit un fort à Dikma. Et alors là, un des beaux portraits du livre, votre petite amie nigériane.
Elle s'appelle Yakoura Fantama, elle avait 72 ans à l'époque quand je l'ai rencontrée.
Vous dites 75 dans le livre.
75 ans, oui. Ah oui, vous voyez.
Oui, c'est l'effet de la séduction.
C'est exactement ça, j'étais vraiment charmé. Elle a mis du maquillage pour moi ce jour-là, elle m'a dit qu'elle a mis juste pour moi. Elle s'attendait à ma venue, je l'avais contactée grâce à une autre chercheure qui était basée dans la ville principale de Maïdougouri. Donc elle habitait dans ce fort de la ville de Dikwa, qui était construit par cet envahisseur qui s'appelait Rabat. Et elle était une aristocrate déchue, pour faire vite. Et elle a été mariée de force à plusieurs hommes pendant toute sa vie, et en fait, arrivée à cet âge-là, elle n'avait plus rien à faire, et elle me parlait franchement. Je voulais lui parler, moi, de l'histoire de ce Rabat, de cet envahisseur. Elle a fait dérailler l'entretien. Donc, vous voyez, je parle d'elle comme un mélange d'une sorte de type, de prototype d'entretien qui déraille, mais qui va dans le bon sens. Parce que grâce à elle, j'ai pu parler, de voile, j'ai pu parler de Boko Haram, j'ai pu parler de religion, j'ai pu parler de drague, sur place, évidemment. Comment est-ce qu'une femme, qui était née à cette époque-là, draguait à cette époque-là, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'était un très beau portrait.
Et les femmes Kanouri, puisque vous êtes très préoccupés de chevelure, étaient réputées pour la complexité de leur coiffure, selon l'âge, le traitement,
tout à fait.
Le système marital, etc.
Vous avez des albums photos des premiers Européens qui voyagent dans la région et qui notent que les femmes Kanouri avaient des façons très compliquées de se coiffer selon leur âge et leur statut marital. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle se plaignait de cette Yakoura Fantama que j'ai rencontrée à Dikwa, se plaignait du fait qu'aujourd'hui, on ne pouvait plus voir les cheveux des gens. Et elle m'a montré ses cheveux justement en me disant « Regarde, je deviens même un peu chauve. » Donc elle se plaignait de ça.
Ça vous fait évoquer dans le livre le souvenir de la mère de Fela Kuti, le chanteur.
Oui. Fumi Layo Ransom Kuti était une femme très célèbre, même plus célèbre que son fils pendant une époque. Elle s'est battue pour le droit des femmes, pour obtenir le droit de vote, droit qui ne sera obtenu dans tout le Nigeria qu'en 1979. Il a été obtenu graduellement dans certaines régions du pays, en particulier dans le sud, dans le sud-ouest, à partir des années 40, puis de façon censitaire, ensuite dans les années 50, pour les hommes et femmes. Mais tout le pays, donc tout homme et femme, n'ont pu voter ensemble qu'en 1979, donc
un an après sa mort. Elle était morte, oui.
Exactement.
Elle est morte comment ?
Défenestrée par les soldats du dictateur militaire de l'époque, Obasanjo, qui lui est devenu le premier président de la 4e République du Nigeria en 1999. Donc vous voyez qu'il est revenu au pouvoir.
Bah, c'est comme le président sortant qui se représente aux élections présidentielles de samedi prochain, peut-être. C'est un ancien dictateur. My people, them, they stay for poor surroundings. Pastors dress nine, they clean pass. He had for my people, for them to buy soap. Pastor, now him, them, give respect pass. And them, they do bad, 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 bad things. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Allah Akbar Muhammadu Salam Alaikum Allah Amen So waka 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 I go many places waka 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 I go business places waka 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 I see
waka waka waka.
All the bad 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 things.
Waka waka waka.
Them they do do do.
Waka waka waka.
Call corruption.
Waka waka waka.
Them they call nepotism.
Waka waka waka.
Inside the promotions.
Waka waka waka.
And inside all business.
Waka waka waka.
So waka 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 waka.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Vincent Iribarren qui publie chez Terre Humaine Plomb, un manguier au Nigeria. Nous sommes dans un état du nord-est, le Borno. Le Borno, c'est peu de choses par rapport à la Fédération du Nigeria. C'est, dites-vous, 3 millions d'habitants.
3-4 millions.
Sur 190.
190, peut-être 200 millions.
Ouais. On ne sait pas le pourcentage des musulmans. Vous vous insurgez contre la représentation médiatique qui multiplie les clichés, dites-vous, sur le Nigeria qui sépare le nord, où nous sommes, qui serait tout entier musulman du sud chrétien.
Ça, il y a des clichés qui existent même au Nigeria. Donc ce n'est pas qu'en Europe ou qu'aux États-Unis, c'est un cliché qui existe. Le nord serait entièrement musulman et serait radicalement différent du reste du pays. Alors que quand on entend parler du Nigeria, on pense plutôt à des gens qui viennent du sud, on pense aux grandes villes comme Lagos, où on pense au pays Yoruba, alors que dans le Nord, il y a une culture très riche, une histoire très ancienne. Et c'est donc, je pense que c'est dommage de les oublier quelque part. Et j'espère que faire rendre justice en parlant donc de cette complexité, de cette histoire et cette longue histoire.
Les chiffres de l'alphabétisation, on les connaît?
On les connaît mal, on sait qu'ils sont dramatiques dans le nord du pays. Des années de négligence depuis la période coloniale où on ne construit des écoles que pour les élites. Donc les fils du Chiou par exemple, eux-mêmes ont le droit d'aller à l'école. Les fils des chefs qu'on dit traditionnels sur place, eux ont le droit d'aller à l'école. Alors que les autres n'y ont pas droit. Quand ceux qui ont droit sont quasiment que des hommes. Donc il existe ça aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éducation, du coup, ce manque d'éducation formelle a fait que beaucoup d'éducation coranique a continué sur place depuis des générations, mais qu'il existe aussi une offre pour d'autres écoles qui, elles, donc, sont d'inspiration, qui viennent de plusieurs parties du monde musulman, et qui aujourd'hui, dans la vie de Maïdougouri, d'innombrables écoles musulmanes, mais de...
Donc vous voulez dire qu'il y a fragmentation de l'enseignement musulman?
Exactement,
aussi.
Exactement. On ne se rend pas très bien compte en fait de ce qui est offert aux gens, et ce qui veut dire que de façon religieuse, on peut enseigner des choses très différentes à tous ces musulmans. La plupart des gens étant sunnites, pratiquent une forme d'islam qui ne sera pas très différente de ce qui sera pratiqué dans le reste du monde musulman, mais d'autres seront influencés par des théories qui viennent par exemple d'Arabie Saoudite. Par exemple.
De même qu'il y a fragmentation de l'éducation chrétienne.
Exactement. Des missionnaires sont arrivés malgré le fait que les colonisateurs britanniques leur ont mis des bâtons dans les roues. Des missionnaires sont arrivés pour essayer de convertir des gens sur place, mais ils faisaient concurrence entre eux. Donc on a toute la palette de protestants plus des églises indépendantes nigérianes qui viennent du sud.
On va entendre un instituteur dans un instant. Bon, comme on voulait l'entendre en français, il vient du Cameroun, un documentaire d'Arte. Boko Haram, vous avez une définition?
Il existe plusieurs hypothèses. Aujourd'hui, on dirait que celle qui l'a plus communément répétée, c'est que Boko, c'est pour Book, éducation, et Haram, c'est interdit. Mais c'est pas forcément la vraie.
L'instituteur, monsieur Enoch, tente de sensibiliser les enfants sur les dangers de la secte islamiste.
Notre thème, c'est Boko Haram. Petit 1, nous allons voir la définition de Boko Haram. Que signifie Boko Haram? Qui va parler? Omar Brahim.
Boko Haram, c'est des bandits.
C'est des bandits. Quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont tiré
et faire quoi encore?
Ils ont brûlé les maisons.
Ils ont brûlé les maisons.
Ils ont égorgé les gens.
Ils ont égorgé les gens. Oui. Boko Haram, ça veut dire l'école est péché, n'est-ce pas?
Oui.
Est-ce que c'est vrai?
Non.
À l'école, on interdit la religion?
Non.
Est-ce que dans l'enseignement, là, on dit qu'il ne faut pas prier Allah Akbar là?
Non.
C'est un peu difficile parfois. Parmi les élèves même, il y a les élèves que leurs parents sont de Boko Haram.
Il y a beaucoup de choses dans ce documentaire de 2016, donc diffusé par Arte, mais on s'arrête déjà à la première réponse un peu spontanée des enfants, des bandits.
C'est un phénomène qui existe dans le nord du Cameroun depuis des années. Bien avant Boko Haram, mais même bien au Nigeria aussi. Alors au Cameroun, on les appelait les coupeurs de route, les arguignas. Donc c'était des bandits, des gens qui, en gros, arrêtaient les voitures et volaient les sacs et volaient de l'argent. Certains de ces coupins de route sont devenus des membres de Boko Haram. Ce qui fait que la représentation de Boko Haram comme simplement des fanatiques religieux, en fait, n'a rien à voir forcément avec la réalité. Certains sont des bandits, certains veulent se marier, d'autres veulent faire partie d'un groupe parce qu'ils font face à la violence de l'État nigérian. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent que des gens rejoignent Boko Haram.
Mais on voit l'instituteur un peu gêné au bout d'un moment parce que les réponses des élèves peuvent être dissonantes. Certains de leurs parents peuvent être de Boko Haram. Alors comment au Nigeria, si on revient au Nigeria, dans l'État de Borno, comment les parents doivent-ils faire des choix?
Le choix est souvent très difficile pour eux parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas d'argent. L'État ne s'occupe pas d'eux. Donc on parle de manque d'hôpitaux, de manque d'écoles. On parle de la violence de l'État. Quand on marche dans les rues de Maïdougouri aujourd'hui, on voit l'armée dans la rue. Il y a un couvre-feu dans la rue. Les gens ont peur. Les gens ont peur de la police, les gens ont peur de l'armée, les gens ont peur des services spéciaux qui, eux, ont tué l'ancien dirigeant de Boko Haram, ce qui avait mis
une foule. Vous accordez beaucoup d'importance à cette affaire en 2009 parce que l'assassinat était préparé par des tortures et était enregistré, filmé et montré.
Exactement. Et aujourd'hui, les gens en parlent. Cet assassinat a transformé ce Mohamed Youssouf, qui était ce premier dirigeant de Boko Haram, en martyr de la cause. Et effectivement, on voit bien que ce qui aurait pu être une des rébellions qui se reproduit dans le nord du Nigeria depuis au moins un siècle, on a au moins, voire deux, on a des cris historiques qui témoignent de ces recrudescences de phénomènes religieux, économiques. En fait, c'est transformé en rébellion ouverte contre l'État et guerre contre l'État.
Parce que votre analyse consiste à donner de la profondeur historique à ce qu'on dit d'habitude dans le langage des experts qui sont uniquement sur le très contemporain. Les milices, c'est un phénomène nouveau ou pas? Parce que les milices qui tentent de répondre à la violence de Boko Haram, aux insuffisances de l'armée, vous les décrivez en long, en large.
J'ai rencontré le chef de la milice qui se bat contre Boko Haram en ce moment, et lui est quelque part lui aussi fanatisé dans ce combat contre Boko Haram. Lui pense que c'est un bon musulman, que Boko Haram ira en enfer. Il me l'a dit clairement. Et il se présente comme le successeur des milices qui existaient dans la région depuis au moins le 19e siècle. Il se dit qu'il fait ça pour le bien de son pays. Il parle de patriotisme, hein, il parle de patriotisme à la fois nigérian, mais aussi pour la région du Borno, de laquelle il provient lui-même. Donc c'est une sorte d'héritage local, de police locale. Il a repris ce flambeau, et il le voit comme un devoir. Le problème sera de réintégrer ces milices après Boko Haram.
Les milices qui peuvent être les héritières des vieux chasseurs. Mais on ne va pas vous faire prédire l'avenir, Vincent Iribarren, ce n'est pas votre rôle. Vous dites le rôle de l'historien ou de le rôle de l'ethnologue ou le rôle du français qui aime le Nigeria, c'est d'être là. Et vous avez rencontré un certain nombre de personnes qui sont là.
Tout à fait. C'est parler avec les gens, leur discuter de leur histoire, échanger avec eux, comprendre comment eux réfléchissent à leur histoire et comment ils veulent être représentés. Alors évidemment, on peut être tout à fait manipulé dans ce genre d'interaction, mais c'est aussi ce qui sort du travail d'archives habituel que font les historiens, ce qui fait que l'addition des deux fait qu'il existe un résultat qui est un échange qui est tout à fait subjectif, évidemment, mais qui aussi fait qu'il y a une richesse humaine dans la question. Et c'est pour ça que la question interhumaine me plaisait tant.
Et vous revenez bien sûr au Borno et au Nigeria dans peu de temps pour enseigner dans des universités. Les cours, me disiez-vous, le programme est fixé une semaine à l'avance, mais c'est un peu du genre comment réussir dans la vie, comment convaincre, comment parler, comment être là, quoi.
Le développement personnel est essentiel au Nigeria. Tous ces livres qui existent sont partout dans les librairies qu'il y a dans tout le Nigeria, vous en trouverez.
Mais enfin, lisez d'abord ce livre chez Plon. Merci à vous, Philippe Duclos, Franck Olivard, Valérie Aestaray, et tout à l'heure dans La Tête au Carré, archéologie du handicap avec deux représentants de l'INRAP.